I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood et tout.
Tu peux ressembler à un tout faire, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robinson Crusoe, il ressemble à rien, prends les cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Bah non, je sais pas.
Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! Pour ce nouvel opus de Fashion Gasoil, je ne vais pas vous ouvrir les portes d'une maison de couture ou d'une marque, mais je vous invite à découvrir les coulisses du salon Tranoï avec son directeur général, Boris Provost. Bonjour Boris.
Bonjour Valérie.
Alors je suis ravie de décrypter un peu une autre forme de la mode que les professionnels connaissent, mais qui peut intéresser les non-professionnels. C'est toujours passionnant de connaître les coulisses. C'est ce qu'on fait avec Fashion Gasoil. Alors, avant de présenter Tranoï, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
Oui, avec plaisir. Alors, écoute, je suis d'origine bretonne et je suis arrivé...
Ça, il fallait le placer.
Parce que pour la communauté bretonne qui nous écoute, je crois que c'est important de le replacer.
On les salue.
Voilà, on les salue. Exactement. Donc voilà, après des études de commerce, je suis monté à Paris en 98, où j'ai fait des études dans la communication. Et lors de premier stage, je suis arrivé dans divers bureaux de presse. Donc, j'ai travaillé avec Evin Argelès, avec Brigitte Chouet, qui étaient des attachés de presse indépendantes. Et dans ces bureaux, on travaillait pour plusieurs marques de mode, dont Repetto, dont les gants Georges Morand, de la distribution aussi, beaucoup dans le sport, quand j'ai démarré avec Rossignol, Intersport, les montres Casio, pas mal de marques un peu lifestyle. Et puis, très très vite, on avait un de nos clients qui était un salon, qui était le salon première classe, le salon de l'accessoire de mode.
Qui existe encore,
oui, qui a été créé en 89, 42 ans aujourd'hui, qui était un de mes premiers clients. Et puis ça a été vraiment, on va l'expliquer, ma découverte de l'envers de la mode,
oui,
comment s'organiser le retail, la distribution et comment... Le salon, comment il représentait un outil incontournable pour développer sa marque, et la distribuer. Donc ça a été vraiment ma première expérience avec le média salon. Puis après, je suis passé par diverses agences. Et en fin de compte, les organisateurs de ce salon, les fondateurs, Xavier Clergerie et Bertrand Fouache, m'ont proposé de rejoindre l'aventure en 2003. Et de reprendre la communication. Donc à l'époque, ils géraient deux salons, Who's Next, qui était plutôt un salon des modes urbaines. Hein. On était début des années 2000, en plein dans le streetwear, l'urbanwear. Donc c'était le salon référent français et première classe, le salon de l'accessoire. J'y ai passé 13 ans, 13 ans de bonheur, de joie, de réussite aussi, parce que je suis rentré dans une toute petite PME où on était un peu moins de 20, c'était très familial. Et puis j'y ai fait plusieurs postes, on a développé des salons à l'étranger. Voilà, on a racheté d'autres salons, on a grossi, on a créé plein de nouveaux événements. Ça a été une expérience très enrichissante pendant 13 ans. Donc voilà, j'ai à peu près un peu plus de 20 ans de carrière. Donc 13 ans, ça fait plus de la moitié. Donc c'est un passage assez important. Et puis, à l'aube de mes 40 ans, une envie de faire autre chose. Les fondateurs allaient quitter le navire. Voilà, j'avais envie de me frotter à autre chose. Je pensais que j'avais fait un peu le tour de la mode. Et puis, j'ai des parents restaurateurs. Ma deuxième passion après la mode, c'est quand même la gastronomie, l'art de vivre au sens large, le tourisme, le voyage. Et j'ai eu la chance de rejoindre un autre groupe d'organisateurs de salon qui s'appelle Ride Exposition, qui est le deuxième groupe mondial, pour prendre la direction d'un département Hospitality and Food. Mmh.
C'est eux qui font Équipe Hôtel aussi.
Voilà, exactement. Et donc, j'ai pris la direction d'Équipe Hôtel au début. Donc, Équipe Hôtel, pour situer, c'est le salon référent des hôteliers et des restaurateurs français. On y trouve tous les fournisseurs quand vous voulez monter un hôtel, de ta batterie de cuisine à ton four, à ton mobilier, ton revêtement de sol, ta vaisselle. Oui, le vêtement professionnel aussi qui évolue beaucoup, parce que beaucoup de créateurs de mode s'y sont frottés justement aussi pour habiller ou créer des tenues d'hôtels ou de restaurants. Voilà, donc j'y ai travaillé pendant 3 ans. J'ai découvert un monde de la gastronomie formidable, dans lequel je me suis aussi beaucoup amusée. Le milieu de l'hôtellerie aussi en plein bouleversement sur l'expérience client, on va en parler, je pense, Valérie. Oui. Mais voilà, dans l'hôtellerie comme dans le retail de mode, c'est une des clés fondamentales du renouveau de ce secteur. Et puis en 2019, un des fondateurs du Salon Traneuil, salon qu'on va détailler, cherchait un nouveau dirigeant et m'a contacté. Et puis j'ai foncé un peu tête baissée en septembre 2019 parce que pour moi c'était l'opportunité de reprendre une petite PME, une petite équipe. Et de redévelopper ce salon, de le repositionner.
Je me souviens des articles et des interviews de toi à l'époque. C'est vrai que tu avais...
J'avais beaucoup d'envie, alors, que je vais pouvoir exprimer.
Tu as été freiné dans ton élan.
J'ai été freiné dans mon élan, oui.
Mais juste avant, pour les non-initiés, qu'est-ce que Traneuil ?
Alors, Traneuil, c'est un salon de mode.
Qui a été créé en
89.
89.
Ouais, il y a eu plusieurs dirigeants. Il a été créé par une femme, Marielle Gamboa, en 89, qui en 1999 le revend à quelqu'un qui était un professionnel du salon et qui du coup s'associe en 2005 avec le fondateur d'une des boutiques référentes à Paris qui se nomme L'Éclaireur. Hein, L'Éclaireur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la boutique référente avant Colette et avant Merci. Voilà, quand on venait à Paris, c'était le passage obligé d'aller voir la sélection de L'Éclaireur. Et je dirais que de 2005 à 2015, c'est l'heure de gloire de Traneuil qui se développe, qui a lieu à New York, qui a lieu plusieurs fois par an à Paris. Et pour revenir sur ta question, Valérie, c'est quoi Traneuil? C'est un salon de mode donc, qui présente des créateurs à des détaillants. Donc, les boutiques dans lesquelles ceux qui nous écoutent achètent des vêtements viennent se sourcer, s'inspirer, découvrir des marques dans nos salons à peu près 6 à 9 mois avant qu'ils puissent les avoir en boutique et les vendre. Donc, c'est, je dirais, le moment où ils viennent découvrir, choisir la sélection des marques qu'ils vont proposer à leurs clients en boutique.
Ils viennent acheter.
Ils viennent acheter, tout simplement. Mm-hmm. Voilà, tout simplement.
Alors, ces salons sont ouverts qu'aux professionnels?
Alors, le public de nos salons, ce sont en exposant des marques de mode, de prêt-à-porter et d'accessoires. Et le public visiteur sont des détaillants multimarques, des acheteurs de grands magasins, Gary Lafayette, Bon Marché, Neiman Marcus aux États-Unis, Selfridges à Londres, Takashi Yama au Japon. Donc, du monde entier, hein, parce que on a la chance d'être pendant la Fashion Week de Paris. Et la Fashion Week de Paris, on va aussi en parler, mais une Fashion Week très internationale en termes de public, d'où l'aura de cette Fashion Week, qui est la Fashion Week numéro 1 au monde. Et puis, on accueille aussi des journalistes, Valérie, comme toi, qui a pu déjà venir visiter le salon, parce que tu viens y découvrir les tendances, les créateurs qu'il va falloir suivre demain. Et puis, évidemment, aujourd'hui, on accueille de plus en plus d'influenceurs, de blogueurs, d'instagrammeurs, et puis les acteurs référents du e-retail aujourd'hui et des plateformes de vente de mode.
Et donc, quelqu'un qui n'est pas professionnel ne peut pas venir au salon.
Ne peut pas rentrer. Normalement, ne peut pas rentrer. Après, on est assez sympa chez Tranoï. Si on a des fans de mode qui nous contactent et qui veulent venir découvrir, évidemment, pour les aficionados, on fait des petits laissez-passer. Par exemple, tous les étudiants de mode de Paris, il y a une journée où on les accueille. Voilà, donc je dirais que les gens un peu périphériques au milieu de la mode sont aussi les bienvenus, mais bon, on vérifie l'identité de chacun quand même, parce que il est important que ce soit réservé qu'aux professionnels.
Comment vous sélectionnez les marques qui sont présentes? Comment ça se passe? Moi, par exemple, je crée une petite marque. Non, c'est un exemple. Hein. Je ne crée pas de marque, mais on va dire.
Mais tu n'oublies pas de nous appeler si tu en crées une.
Tout de suite. Donc, à ce moment-là, je viens vers vous. Enfin, je viens et je dis voilà, je voudrais avoir un stand. C'est ça?
Oui. Alors tout simplement, tu fais. Tu fais une candidature sur notre site internet où tu expliques un peu ta marque, ton chiffre d'affaires, ta stratégie de développement, l'ADN de ta marque, ton positionnement, ton benchmark concurrentiel, c'est qui tes concurrents, à côté de qui tu voudrais être vendu, pour qu'on comprenne un petit peu ton univers. C'est quoi ta consommatrice, à qui tu t'adresses, comment tu la définis. De là, on juge sur le produit, donc sur le style, hein, donc vraiment la démarche stylistique du produit.
C'est ce qui fait l'originalité de Tranoï.
Oui.
J'aime beaucoup ce salon parce que c'est pas foire. Il y a certains salons, c'est un peu la grande foire.
Bah, c'est-à-dire
là,
qu'on essaye
de sélection, on le voit.
Voilà.
On voit la sélection.
C'est pour ça qu'on fait un comité. On se réunit toutes les semaines avec des regards aussi différents. Alors moi, par exemple, je représente dans le comité la personne qui est un peu plus business oriented. J'en ai dans l'équipe qui sont très style, très mode. Et on confronte du coup nos points de vue. C'est-à-dire que des fois, on a des débats sur bah oui, cette marque, elle est intéressante, mais aujourd'hui, pas du tout de stratégie commerciale. Elle n'est pas capée ou bien organisée pour livrer à temps. Une boutique, à un moment, il faut qu'elle ait les collections à temps, parce qu'une robe d'été, ça se vend à partir du mois d'avril, ça ne se vend pas au mois de septembre.
Ouais, même voilà. Au printemps, aux Galeries Lafayette, tu as des collections à été en janvier,
dans les grands magasins. Ouais, ce qu'on appelle les précoles, on peut les avoir bien avant. Mais donc, du coup, on candidate. Et on sélectionne les marques, donc selon des critères de style et des critères de positionnement. On essaye d'avoir une ligne éditoriale, donc pour nous, il faut que ces marques aient un véritable ADN. Aujourd'hui, je crois que ça l'a renforcé avec la crise, avec la tension du marché, c'est que tu peux plus raconter n'importe quoi, c'est-à-dire un storytelling gratuit, ça marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que si tu nous affirmes que tu fabriques français, il faut que tu fabriques français, que tes fils soient français, que tes tissus soient français. Enfin, il faut plus bullshiter le client. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même une montée en expertise du client, surtout parce qu'on s'adresse à une mode qui est plutôt haut de gamme, hein, qui est premium, qui a un certain prix. Donc, le consommateur, il est éduqué. Il n'est pas dans une consommation compulsive. Donc il va vouloir je dirais choisir pourquoi il achète cette robe plus qu'une autre.
Dans une interview, j'ai fait une petite enquête, j'ai regardé, et tu disais dans Fashion United, c'était en septembre 2019,
on arrivait à Tranoï, ouais.
déjà en arrivant à Tranoï, tu remarquais qu'il y avait des difficultés et que le marché était tendu. Il y avait un souci, je te cite, un souci de rentabilité sur la présence des marques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'était avant le Covid, hein, 2019. Déjà.
Oui, déjà, le marché du retail était déjà en train de se réorganiser avec l'avènement de toutes les plateformes en ligne, avec l'avènement d'Instagram où tu viens dans le salon pour découvrir des collections en avant-première. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de marques communiquent et donc rendent accessible l'information au consommateur. Donc, moi, j'ai toujours cru que le consommateur influençait le retail. C'est-à-dire que quand tu as un regard fin, une analyse, que tu es sensitif, hein, parce qu'on est quand même dans des milieux aussi très sensitifs, tu peux détecter ce que va vouloir le consommateur. Et je crois que c'est d'autant plus vrai parce qu'aujourd'hui, on a un consommateur qui est surinformé.
Oui.
Donc du coup, il faut que ta sélection de marque quand tu es un retailer, elle soit d'autant plus pertinente, argumentée quelque part, tu vois, enfin, qu'elle soit...
Mais il faut que les marques aussi aient un ADN.
Voilà.
Un vrai
ADN. Il faut qu'elles aient un ADN, une véritable histoire.
Tu parlais pas aussi de l'aspect financier ?
Si, je parlais de l'aspect
financier. Parce que ça coûte beaucoup de marques, n'ont pas, malheureusement, les marques qui se lancent, qui ont un vrai capital, capital, on va dire, ADN, une véritable identité. Moi, je connais des marques qui ont vraiment, qui pourraient être à Traneuil et qui disent, je n'ai pas les moyens.
Bah, parce que quand je parlais que le marché s'était tendu, pour moi, le marché il s'est professionnalisé. D'accord. Aujourd'hui, moi je me souviens quand j'ai démarré il y a 25 ans, la plupart des publics qui venaient dans les salons, c'était le tissu de la distribution de mode était fait par des retailers indépendants. Mmh, mmh. Donc, tu allais dans des petites boutiques, tu allais chez des commerçants, si tu veux. Alors, tu livrais 15 jours après, le détaillant, il avait un coup de cœur pour une personne, il disait, bon, c'est pas grave, allez, je vais te prendre, et puis on faisait un effort financier. Là, quand tu veux vendre sur des grosses plateformes comme Sarenza, ou même un site comme leprintemps.com, si tu veux, il faut que tu sois hyper carré dans ta prod, dans ta livraison, dans ton prix, dans ta rentabilité, enfin, je veux dire, dans ton niveau de marge. Donc, rien ne doit être laissé au hasard. Donc, je dirais que le marché, il se tend sur son exigence professionnelle. Mmh. Parce que tu es créatif, c'est génial. Tu as la bonne idée, tu as le bon concept, parce que tu as trouvé le bon concept de marque et identifié pour une consommatrice. Mais derrière, il faut que tu sois un bon communicant, il faut que tu sois un bon gestionnaire, il faut que tu aies une connaissance de la fabrication.
Connaissance de tes clients.
Clients. Donc, si tu veux, on te demande quand même d'être à 360 aujourd'hui.
C'est le conseil que tu donnes. Il y a beaucoup de marques qui écoutent Chiffon et Fashion Gasoil. J'associe les deux. C'est le conseil que tu donnerais à des jeunes marques.
Oui, je fais le conseil. Et puis, le conseil que je donne aussi, c'est que parler d'argent, c'est pas sale. Je veux dire, à un moment, on va arrêter de se cacher derrière la création pour la création. Je veux dire, à un moment, la création, c'est génial, il faut qu'elle se vende. Parce que sinon, elle est géniale que pour un espèce de microcosme qui fait que le créateur formidable, il gagnera jamais d'argent et il en vivra jamais, il sera toujours subventionné, il fera concours sur concours, subvention sur subvention. Et il y a un moment, sa marque n'explosera pas.
À un moment, il faut vendre. Hein.
Il faut vendre. Et donc, il faut aussi que les créateurs soient bien entourés parce que si le créateur, c'est pour un gestionnaire, c'est pas grave, mais il faut qu'il s'entoure aussi des bonnes personnes. Donc, je pense que l'ère du collectif, du collaboratif a fait aussi du bien parce que du coup, on voit beaucoup de teams, de crews derrière des marques. Ben, c'est quoi ? Ben, c'est juste le bon amalgame de compétences qui sont complémentaires et qui vont permettre à la marque de réussir. On voit beaucoup de marques qui explosent aujourd'hui avec des gens qui ont fait des écoles de commerce et qui du coup s'entourent de quelqu'un de plus créatif. Donc, je dirais que cette complémentarité de binôme, de trinôme est à mon sens hyper hyper intéressante.
Alors, on est obligé d'en parler, hein. Il y a eu 2020.
Oui.
Comment tu l'as vécu ?
Alors avec
professionnellement parlant. Hein,
c'est un peu tout, hein, parce que le pro est quand même très proche du perso dans ce qu'on a vécu. On a vécu un arrêt, en vrai, complet.
Aucun salon.
Complet de notre activité. Alors, on a été empêché de faire notre métier, parce que notre métier de base, c'est notre métier intrinsèque, c'est d'organiser des événements pour que les gens se rencontrent.
Se rencontrent, c'est ça. Rien, là. Plus rien.
Donc là, plus rien. Le dernier qu'on a organisé est en mars de l'année dernière.
Mars 2020.
Voilà, mars 2020. Donc, tu vois, ça va faire 16 mois qu'on n'a pas fait notre métier. Donc ça a été dur. Ce qui a été dur aussi, c'est le manque de visibilité. Parce que quand on a pu faire un salon au mois de mars, on a été confiné 15 jours après. Bon, très vite, le salon de juin, on se dit qu'on va pas le faire. On avait l'espoir de faire septembre sur les collections été. Il faut savoir qu'en septembre, on présente l'été de la saison d'après. En janvier, on présente l'hiver de la saison d'après. Bon, et puis très vite, ça recule, ça recule, ça recule. Donc, c'est un peu du stop and go. Donc, nerveusement, c'est difficile. Financièrement, c'est difficile. Tu vois que le marché ne redémarre pas. Puis bon, on a vécu à notre niveau ce que tout le monde a vécu. Mais c'est vrai que l'événementiel et la mode, je dirais que nous, on a eu un peu le double effet qui se coule, a été doublement impacté parce que la consommation de mode s'est effondrée. On était dans une incapacité de faire des événements. Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe soudée, qui a des idées, qui se bouge. Donc, du coup, on avait un projet digital qui était un peu dans les cartons et qu'on a sorti. On a profité du confinement pour travailler notre concept de plateforme. En gros, très simple hein, pour les gens qui nous écoutent. La promesse d'un salon, c'est je fais découvrir des marques et je connecte les gens. Bah, sur notre plateforme, on a fait la même chose. Mmh. C'est une plateforme où aujourd'hui, on a 220 marques qu'on peut découvrir en avant-première. Et on a tout des un système de connexion, de prise de rendez-vous, de suivi, de follow.
Ça, ça va continuer à exister ou pas?
Alors ça va continuer à exister. Je dirais même que ça va
monter. Pardon de te couper, mais
je
c'est vrai
prie.
Que là, les frontières ne sont pas encore à 100% ouvertes. Hein, donc,
Les frontières ne sont pas ouvertes. Deux, nous, on croit au figital et encore pendant longtemps. Parce
le figital.
Oui, c'est-à-dire que c'est la rencontre du physique et du digital où notre plateforme, on ne l'anime que par des rencontres physiques. C'est-à-dire on a fait une Fashion Week au mois de mars dernier où les gens ne pouvaient pas venir à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, OK, personne ne peut venir à Paris découvrir les collections. Eh ben, nous, on va aller à la rencontre des créateurs. On va aller dans leur showroom. On va filmer leurs collections. On va filmer leur univers. On va faire découvrir l'univers de la marque et on va poster ces vidéos sur notre site. Mais on va humaniser.
Mais
donc,
on
humanise à travers la plateforme. Et inversement, sur nos événements physiques, où on ne va pas pouvoir retrouver le niveau de fréquentation internationale qu'on avait par le passé, on va le retrouver
on
au fur et à mesure.
Je pense,
mais on
ne
va pas le
optimiste.
Retrouver avant 2-3 ans, à mon sens.
Alors justement, j'en étais sur l'après.
L'après, je vais y venir, mais juste sur l'événement physique, on va aussi créer des modules digitales pour promouvoir et augmenter l'audience de nos salons pour l'acheteur japonais qui ne peut pas venir, l'américain qui ne peut pas être là au mois de juin. On va lui permettre, par des solutions de Zoom, de studio, de streaming, de découvrir les collections via vidéo. Donc, tu vois, la frontière, c'est quand on fait du physique, on met du digital pour permettre aux marques d'augmenter leur audience et leur visibilité. Mmh. Et quand on est sur le digital en ligne, on remet l'humain au cœur du digital, parce que derrière une marque de mode, surtout les marques qui participent à Trenoï, il y a un humain, il y a quelqu'un qui a des choses à raconter et qui incarne sa marque.
Qu'est-ce que tu penses de là, je switch directement et après on va revenir au retour de Trenoï en présentiel. Qu'est-ce que tu penses de l'après-Covid? Est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que tu vois des choses changer? Alors, tant pour les acteurs de la mode, tant que pour le consommateur, tant que pour le rythme des Fashion Week, enfin tout ça, est-ce que tu crois que ça va se réorganiser? Est-ce que ça va changer?
Alors,
comment
moi,
tu vois
moi,
ça?
Moi, je n'ai pas de vérité, en vrai, j'ai des intuitions. Et je regarde les gens consommer, je parle de micro-phénomènes et je me dis ça pourrait évoluer dans ce sens. En vrai, t'as deux grandes tendances qui s'opposent qui ont lieu. T'as le revenge shopping. Donc le revenge shopping, c'est on a été empêché de consommer pendant des mois. Donc je me lâche complètement et je surconsomme et je fais un peu n'importe quoi et tout ce que j'ai appris en termes de responsabilité, de traçabilité, de consommer raisonnable, du sustainable, machin. Bah, on l'oublie assez vite parce qu'on est pris par une frénésie de shopping. Alors ça, on l'a vu sur les marchés asiatiques avec la Chine quand elle a redémarré. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Nous, nos équipes aux US nous disent que c'est incroyable comment la consommation en grands magasins qui a été quand même très, très malmenée, parce que beaucoup de grands groupes qui ont eu des gros, gros problèmes financiers. Ça repart comme en 14. Alors, c'est super pour nous, parce que si ça repart comme en 14, les États-Unis, ils vont venir se sourcer en Europe. Donc, ils vont revenir à Paris pendant les Fashion Week chercher des créateurs européens et asiatiques pour les ramener aux États-Unis. Donc, c'est plutôt un bon signe. Moi, je crois qu'en France, on va être plus raisonnable. Je crois qu'il y a quand même une lame de fond sur une grosse prise de conscience d'une consommation raisonnée et responsable. On le voit à tous les niveaux, on le voit même sur la consommation de grande diffusion, sur des chaînes comme Monoprix qui le revendiquent, sur de l'entrée de gamme comme sur du haut de gamme. Je pense que le consommer responsable et raisonnable va vraiment aujourd'hui être un driver. Alors nous, on le voit dans toutes les nouvelles marques, dans tous les jeunes entre 20 et 25 ans qui lancent des marques, c'est dans l'ADN, c'est-à-dire que c'est même pas un sujet. Ouais, que oui, évidemment,
ça m'intéresse parce qu'il y a aussi beaucoup de marques qui ont surfé et qui ont fait du greenwashing. Là, maintenant, j'ai l'impression, effectivement, que ça rentre
dans... Et pour des marques, si tu veux, qui ont 20 ans, ça a été difficile de rattraper un peu le retard qu'elles ont pris sur toute la démarche green. Donc, évidemment, tout le monde a voulu le revendiquer. Oui, alors j'ai ma petite ligne bio. Et puis maintenant, il faut que ce soit dans tout le process... la ligne. Mais tu ne peux pas faire un on-off, te revendiquer 100% bio du jour au lendemain pour les marques qui existent depuis des années. Mmh. Donc, c'est un apprentissage. En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'en tout cas, il y a une volonté et un engagement. Et ce n'est pas facile pour ces marques-là de passer au green et autres. Donc, ça prend du temps.
Ça coûte très cher, le Made in France.
Complètement. Donc, tu es obligé d'augmenter évidemment un petit peu tes prix, de revoir ton sourcing, de revoir ta fabrication. Donc, tu dois quand même repenser toute ta marque. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une vraie mobilisation sur le sujet. Les marques prennent des engagements. Et même si elles ne sont pas 100% clean, tu vois, aujourd'hui...
Il y a une traçabilité.
Elles se donnent une échéance en disant, voilà, mon cahier des charges, il est à 4, 5 ans pour que je devienne complètement propre. Tu vois, mais ce qui est marrant et ce qui est rassurant, par contre, c'est vraiment, et je tiens à insister là-dessus, sur les nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Alors, c'est complètement dans l'ADN, c'est même pas un sujet, quoi. Parce qu'elles consomment voilà, comme ça, elles, en termes de consommateurs, elles consomment comme ça. Elles recyclent, elles font du seconde main, elles font de l'upcycling, elles font des matières recyclées. C'est comme ça qu'elles
consomment
nos jeunes.
Voilà, mais c'est cette jeune génération. Tu vois, j'ai interviewé des créatrices danoises dans le dernier numéro de Fashion Gasoil, et toutes m'ont dit, mais nous, c'est évident, on a déjà un mode de vie green, donc... On se pose pas la question
en
de savoir si on est green ou pas.
Si tu veux, voilà. Avances par rapport à nous. Hein.
Et maintenant, je remarque que les jeunes générations ne mettent pas ça en avant. Ça fait partie de leur ADN, comme tu dis. Et ça, c'est pas mal. Et au niveau du rythme des Fashion Week, est-ce que tu crois qu'il va falloir calmer la cadence, enfin ralentir, arrêter d'accélérer, enfin d'aller toujours de demander au DA de faire plus, de produire plus, et puis faire plus de show.
Là, tu sais, c'est la consommation qui drive ça. Aujourd'hui, on le voit dans les marques de luxe qui se portent très, très bien avec la crise. Bah, elles continuent à être prêtes encore plus tôt. Comme tu le disais, on trouve des robes d'été au Galeries Lafayette au mois de janvier. C'est surtout les marques très haut de gamme, tu vois, qui ont les moyens d'eux et qui ont des clients qui ont une appétence. Mais c'est vrai que ce rythme effréné des Fashion Week, de la production, de présenter beaucoup plus tôt. Il se régule avec la crise, mais ça va revenir.
Que c'est pas un peu antinomique, justement. Tu dis, bon, alors, toutes les marques se mettent au green et tout, et en même temps, il y a plein de voyages en avion, enfin...
Alors,
ça fait partie du deal, en fait.
Alors, je ne sais pas si c'est lié, s'il y a plein de voyages en avion. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, dans le business travel, on va beaucoup moins voyager. Ça, c'est certain. ADP Aéroport de Paris prévoit un retour à la normale en 2025.
2025.
Donc, de toute façon, il va y avoir une baisse du trafic aérien. Moi, je le vois à titre d'exemple personnel, où je suis allé faire une conférence de presse en Chine, où j'ai pris un avion pour 24 heures. C'est un non-sens aujourd'hui. Aujourd'hui, on fera plus ça. On le voit, les acheteurs viennent moins nombreux au Fashion Week, ils se concentrent, ils préparent mieux leur voyage.
Ça, pareil, c'est la pré-Covid, c'est très intéressant.
On revient, Valérie, sur les jeunes générations. Moi, j'ai des jeunes avec qui je pars en vacances, tout ça. Ils me disent, mais est-ce qu'on peut faire autrement que prendre l'avion? Est-ce qu'on peut prendre le train plutôt que la voiture? Enfin, voilà, eux, c'est complètement intégré. Nous, ça, on ne se pose même pas la question. On prend l'avion.
Oui. La prochaine édition du salon... Tranoï, donc aura lieu le 25-27 juin. Alors, on va dire que c'est un salon qui va être exceptionnel. Comment on peut le qualifier? Parce que là, il sera plus petit. Il sera au Palais de Tokyo. Et il est en partenariat...
avec la Fédération. Alors, du coup, l'édition de juin, pour replacer dans le contexte, à Paris, on a une Fashion Week femme deux fois par an en mars et fin septembre, et une Fashion Week homme en janvier et en juin. Donc là, on redémarre sur une Fashion Week homme, qui est une Fashion Week, je dirais, plus confidentielle par rapport à la Fashion Week femme, qui est vraiment... la Fashion Week la plus internationale et la plus connue au monde, et qui attire le plus de public. Toutes les frontières ne sont pas ouvertes, donc on va avoir des créateurs majoritairement européens. On va être sur 25 marques qui nous rejoignent. Et on est vraiment sur un positionnement très jeune création, première ou deuxième collection, et sur un vestiaire masculin, très créatif. Et jeunes, voilà.
Et là, c'est vous qui les avez sélectionnés.
Là, alors,
c'est l'équipe.
On a signé un partenariat avec les organisateurs de la Fashion Week, avec la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, hein, qui sont les organisateurs de la Fashion Week. Donc, les organisateurs de la Fashion Week, ils organisent le calendrier des défilés, ils coordonnent toute la semaine de la mode à Paris entre ces défilés, des grandes maisons, des marques plus confidentielles. Ils ont un showroom qui s'appelle Sphère au Palais de Tokyo où ils présentent des jeunes créateurs qui sont soutenus par le défi. Et nous, on vient en complément en tant que salon partenaire officiel de la Fashion Week où on accompagne ces marques créatives dans leur développement commercial. Donc oui, ça va être un salon... confidentiel, j'ai pas envie de dire ça, mais ça va être un salon de la reprise. Il est ouvert.
Ouvert aux professionnels.
Il est ouvert aux professionnels. Je pense qu'on va avoir beaucoup de gens de l'écosystème de la mode qui vont venir parce que les gens ont très envie de se revoir, de revoir du produit, de revoir des créateurs, de reparler création et de rééchanger, toucher du produit, toucher des collections, de checker les matières et les coupes. Je suis content parce que on a vraiment des jeunes marques qui participent pour la plupart pour la première fois à Tranoï sur la sélection masculine. On a des marques comme Mouti, comme Filéo, comme Steven Passaro, qui pour moi renouvellent le vestiaire masculin. 8 IGB aussi qui renouvellent complètement les codes de l'urban wear. Donc ça va être très créatif. Ce sera pas aussi festif qu'on le voudrait à cause de certaines restrictions. On pourra pas faire des grandes fêtes au Palais de Tokyo, mais c'est notre première édition au Palais de Tokyo, donc on est content. À partir du mois de juin, à partir de la reprise, on aura lieu 4 fois par an au Palais de Tokyo. Oui.
Alors, la prochaine date, c'est 30 septembre, 3 octobre. Donc là, c'est le
Fashion
grand...
Alors, 25-27 juin, l'homme au Palais de Tokyo. 30 septembre, 3 octobre, Fashion Week Femmes, on sera sur deux lieux, Palais de Tokyo avec cette offre Emerging Talent, Jeunes Créateurs, Première Collection et autres. Et puis nos marques créatives et un peu plus commerciales au Palais de la Bourse, qui est le Palais Brongniart. Mm-hmm.
C'est le lieu symbolique de Tranoï.
C'est le lieu historique. Ça fait une quinzaine d'années que Tranoï abrite sa sélection là-bas.
Donc on reste positif et on se dit que ça va avoir lieu et que plus que jamais la mode va repartir.
Normalement, les salons, là, ça y est, vont avoir lieu. Nous, aujourd'hui, Tranoï fait partie d'un gros groupe qui s'appelle GL Events, qui organise des salons dans le monde, entier. Et ça y est, la rentrée, on est ouvert. On va dire que pour les organisateurs qui organisent des salons avant l'été, on a un peu des têtes brûlées. C'est-à-dire qu'on veut absolument réanimer, réenchanter le marché.
Non, mais il faut avancer. Sinon...
Donc, on avance, on y va. Mais c'est la grande reprise sera au mois de septembre et puis parce qu'on a espoir que les Américains seront là, que les Italiens seront là. Nous on a un tiers de visiteurs et de marques italiennes sur le salon, donc le marché italien c'est notre premier marché. Donc on a hâte de retrouver nos copains italiens qui vont revenir en nombre au mois de septembre et un retour de l'Asie. Donc quand je parle d'Asie c'est surtout la Chine, le Japon et la Corée à partir de 2022.
2022, pas avant ?
Non, pas avant, parce que la Chine sera pas réouverte, parce que pour sortir de la Chine, c'est très, très compliqué, surtout pour y rentrer. Le Japon ferme, réouvre, ouais. Ils sont empêtrés dans leur JO, et la Corée est très en retard sur la vaccination.
Oui, c'est ça. Et alors, à propos de vaccination, question pratique, est-ce que vous allez... vous avez pensé au pass sanitaire ou pas du tout ?
Alors, nous, comme on est régi par les lois du musée, je dirais par le protocole d'accessibilité à un musée. Donc, nous, on n'a pas besoin de demander de passe sanitaire. Ça va être un salon où on ne va pas être collé serré. On a mis des distances de sécurité entre les stands de présentation des marques. Voilà, il n'y aura pas de test PCR demandé à l'entrée. Bon, après, on touche du bois, là, autour de la table, on est tous vaccinés. Ça y est, là, on est passé
plus
de 30 millions en France.
Oui, c'est ça, on a passé le cap. C'est pour ça qu'il faut regarder vers l'avenir. Alors, justement...
Et puis, tous les publics, Valérie, étrangers qui seront là, eux, pour prendre l'avion, auront été testés.
Exactement.
Donc, normalement, sur les publics étrangers, on n'a pas de souci parce que pour avoir eu accès aux aéroports de Paris, ils ont dû montrer patte blanche et prouver qu'ils avaient un test PCR négatif.
Exactement. Alors, comme on est positif et qu'on regarde l'avenir, quels sont tes objectifs pour Tranoï, pour les 5 ans à venir?
Alors,
les objectifs que tu avais en 2019.
Bon, alors, le premier objectif, et j'ai toujours été comme ça, c'est on va prendre du plaisir, parce que ça fait quand même 18 mois qu'on a été empêchés de faire notre métier. On a gardé la flamme, on a gardé la passion, mais on a eu des moments aussi de down, de doute, Et ça a été une période difficile pour nos équipes, pour nos clients. Quand je parle de nos clients, je parle des marques de mode, mais aussi des détaillants et des distributeurs. Voilà, ça a été dur. On en a un peu bavé, donc on a envie de reprendre du plaisir et de remettre l'humain et la création au cœur de notre quotidien. Voilà. Donc ça, bon, c'est pas une version philosophique ce que je vous raconte, mais c'est moi j'ai la chance de faire ce métier depuis plus de 20 ans et je m'amuse depuis plus de 20 ans.
Donc je complètement animé.
Je compte bien continuer à m'amuser encore pour 20 ans. Donc ça c'est mon premier objectif et l'objectif de réussir à embarquer les équipes sur ce même mojo. Ensuite, c'est que Tranoï retrouve une place incontournable dans les salons de la mode et comme outils, destinations de sourcing, de découverte pour tous les professionnels. Pour ça, on va travailler vraiment en collaboration avec la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. On a des projets, évidemment, de développer toutes les fonctionnalités sur notre plateforme pour garantir cette professionnalisation dont je te parlais et cette montée en expertise que doivent avoir les marques de mode. Mm-hmm. Pour le salon, c'est super, c'est la chérie on the cake, on se voit, on découvre les produits comme disait, on les touche, on check les coupes, on a de l'émotion, c'est génial, mais après on fait du business, il y a notre plateforme.
Bien sûr.
Et on suit les commandes, les livraisons, les réassorts, j'espère, si ça consomme bien. Donc développer notre plateforme, ouais. Et Tranoï à l'international.
Voilà, c'est ça. J'avais cru voir Dubaï.
Non, Chine. On avait un projet. On avait un projet de se développer pendant, enfin de se développer, de créer un événement pendant la Shanghai Fashion Week qui a été avorté avec le Covid. On devait le lancer en mars 2020. Et là, on retravaille sur un projet pour 2022.
Voilà. J'avais cru voir Dubaï.
Non, Dubaï. J'ai eu une expérience il y a quelques années à Dubaï,
où
on avait monté un salon avec WSN Développement à Dubaï en 2009 et 2010.
Et là, la Chine, ouais, pour 2022.
Oui, parce que la Chine, on est très attiré sur deux sujets, sur la consommation, évidemment, et c'est un pays très, très compliqué. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller faire un salon quand tu es une marque de mode, un salon, je dirais, classique comme tu le fais à Paris.
Pourquoi ?
Parce que, déjà, les acheteurs achètent en RMB, il faut que tu aies un compte bancaire là-bas, beaucoup ne parlent pas anglais. Donc, il y a des règles de business où il faut que tu sois accompagné. Donc, je dirais que notre job, quand on va accompagner des marques hors Chine, ça va être surtout des marques qu'on appelle des Western brands.
Qu'est-ce que tu peux expliquer à l'auditeur ?
C'est-à-dire que ce sont des marques européennes qui veulent s'implanter en Chine. D'accord. Parce qu'elles voient l'appétence du marché, la consommation frénétique. Un consommateur chinois qui est de plus en plus éduqué parce qu'il a voyagé dans le monde entier, donc il a une connaissance de mode aussi qui est beaucoup plus avertie que la génération précédente. Mais pour pénétrer ce marché, c'est compliqué si tu n'es pas accompagné. Donc nous, on va essayer de faire le pont avec ces organes, ces agences, ces professionnels qui font le bridge entre les marques étrangères et les acteurs de la distribution locaux. Sur l'année prochaine, j'espère.
Et d'autres pays après ?
Oui, alors on est assez focus sur l'Asie en vrai parce que on aimerait bien se redévelopper en Asie. Ouais.
C'est tout ce que je souhaite.
Et
on s'en sorte. Alors, rendez-vous le 25-27 juin.
Voilà, on vous accueille au Palais
Gasol,
de Tokyo.
Il sera, et grâce à Fashion Gasol,
et on est ravis de t'accueillir, Valérie.
Voilà, on va faire des stories, on va faire plein de choses ensemble. Idem, 30 septembre, 3 octobre.
Palais de la Bourse, Palais de Tokyo, pour découvrir l'été Spring-Summer 22 mode femme.
Donc, merci à toi, Boris.
Merci à toi, Valérie. Puis on se voit le week-end prochain.
Oui, déjà le week-end prochain. Ouais. À très vite.
À très vite.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.